Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Amnesty International Evreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International, le groupe d'Evreux, pour la première émission bimensuelle du mois d'octobre. On est là pour une heure, pendant une heure jusqu'à 20h, pour vous parler des droits humains, des combats d'Amnesty pour défendre les droits humains, des grandes campagnes et des grandes réflexions par rapport à la défense des droits humains, comme on a l'habitude de le faire sur l'antenne de Principes Actifs. Je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver sur Evreux et qui nous découvrent. Voilà, donc pour animer l'émission ce soir avec moi, il y a Françoise.
Bonsoir, je suis contente de vous retrouver.
Oui, c'est vrai, Françoise, on ne l'avait pas vue depuis un petit moment.
Elle
était en vadrouille.
Elle nous snobait les émissions. Et puis Sabine.
Bonsoir.
Bonsoir Sabine.
Et puis vous avez Didier.
Oui, et moi effectivement. Alors comme c'est moi qui fais la technique depuis pas si longtemps que ça, donc je répète ce que je vous ai déjà dit les fois dernières. S'il y a des erreurs, des petites erreurs ou des petits blancs pendant l'émission, vous pourrez mettre un nom sur les erreurs, ce sera moi. Voilà. Donc, pas mal de sujets ce soir. On va vous parler à nouveau de l'atteinte aux droits des réfugiés et des migrants, puisque c'est quand même un des principaux dossiers d'atteinte aux droits humains auquel nous avons à faire face ici en France et à l'heure actuelle. Donc ça revient régulièrement dans nos émissions, mais on n'a pas fini d'en parler. On va vous en reparler ce soir. Françoise va vous parler de République démocratique du Congo, je crois savoir, de bonnes nouvelles.
Oui, des
aussi.
Enfants en République démocratique du Congo.
Voilà, de bonnes nouvelles aussi. Et puis il y a Sabine qui va vous parler entre autres de ce qui se passe en Argentine, je crois.
Oui, le recul du droit à l'avortement en Argentine.
Voilà, et puis plein d'autres nouvelles, on ne va pas tout vous dire tout de suite, plein d'autres nouvelles d'informations et pistes de réflexion et d'action d'ici 20h, et sans oublier les actions locales que nous vous dirons à la fin de notre émission. Voilà, donc pour commencer, c'est moi qui vais commencer pour vous parler effectivement de ce qui se passe au niveau national et local par rapport à l'atteinte aux droits des réfugiés et des migrants. Et pour comme introduction, je vais vous lire...
On n'entend pas.
On me dit qu'on n'entend pas dans les casques. Alors je vais remonter les casques. C'est bon ? C'est meilleur ?
Oui.
Oui. C'est meilleur ?
Oui.
Oui.
Bon. Okay. Désolé, hein, de ce petit...
C'était arrêté. Il nous avait coupé les
casques. Ah non, pas du tout. Désolé de ce petit point technique. Donc voilà, pour commencer l'introduction du sujet... je vais vous lire l'éditorial de la chronique. La chronique, je vous rappelle que c'est le mensuel d'Amnesty International France et qu'il y a dans le dernier numéro, celui du mois d'octobre. Pour vous abonner, vous allez sur le site amnesty.fr, vous avez la fiche d'abonnement. C'est une source d'informations essentielles dont on se sert régulièrement dans les émissions. Et vous avez donc cette chronique dans l'éditorial qui est signée par la présidente d'Amnesty France, Cécile Coudriou, et qui parle de pour contrer le mythe de l'appel d'air. Voilà. Et voilà ce qu'elle dit. Il est des mythes qui ont la vie dure, parmi eux celui de l'appel d'air, selon lequel accueillir les migrants et les réfugiés en attirerait plus encore. Pourtant, cette théorie ne résiste pas aux faits et aux chiffres. 85% des réfugiés se trouvent dans les pays du Sud. En Europe, les politiques migratoires toujours plus dures n'ont pas d'effet dissuasif. L'arrêt de missions de sauvetage, comme Mare Nostrum en Méditerranée, a obtenu pour seul résultat d'augmenter le nombre de morts. Derrière les chiffres, n'oublions pas que les êtres humains quittent leur pays non par choix, mais par nécessité vitale. Il est plus que jamais nécessaire de démonter ce mythe de l'appel d'air et d'y opposer la rationalité des solutions que nous proposons. Car l'hystérisation de la question migratoire érode tel un acide le socle de nos valeurs humanistes. Les effets sont dévastateurs sur les citoyens. Et même s'ils n'y croient pas eux-mêmes, certains responsables politiques n'ont pas le courage de contrer ce discours. Combien de fois les entend-on justifier le refus de l'accueil par la peur d'une montée des extrêmes ? Or, ouvrons les yeux. N'est-ce pas déjà arrivé à cette montée des extrêmes ? N'est-on pas déjà arrivé à cette montée des extrêmes lorsque les ONG de sauvetage sont harcelées en Méditerranée ? Lorsqu'on sont publiés des décrets empêchant de porter secours à des personnes qui risquent de se noyer ? Lorsque l'Europe refuse de laisser accoster des bateaux transportant quelques dizaines de malheureux ? Quand l'Amérique de Trump sépare les enfants de leurs familles et les place en rétention ? Lorsque la Suisse emboîte le pas à la France en condamnant une citoyenne de 73 ans dont le seul crime est d'avoir aidé un demandeur d'asile afghan qui dormait dans le froid. Aujourd'hui, c'est la solidarité même qui est prise pour cible en France, comme nous l'avons démontré à travers notre rapport sur Calais et Grande-Synthe et dans notre documentaire accompagnant sa sortie. Prochainement, un nouveau rapport fera le point sur la situation à la frontière franco-italienne. Ne nous trompons pas. Quel que soit l'accueil qu'il aurait fait, les migrants et les réfugiés continueront d'arriver. Ils n'ont pas d'autre choix. Au lieu de perdre notre âme dans des politiques migratoires inhumaines, tournons-nous vers des solutions qui existent pour les accueillir dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Anticipation, visa humanitaire, réinstallation et répartition équitable des arrivants entre les pays d'accueil. Et surtout, sachons reconnaître en l'étranger notre frère d'humanité. Opposons à ce mythe nauséabond de l'appel d'air, le souffle de la solidarité. Voilà. Donc c'est des mots forts, hein, encore une fois, de Cécile, et auquel effectivement on ne peut qu'apporter notre soutien et notre accord. Et donc pour vous enchaîner ce qui s'est passé au niveau local, on a une information. On a rencontré, alors quand je dis « on », c'est le collectif États généraux des migrations, qui existe depuis quelque chose comme 2 ans maintenant à Évreux, et qui regroupe sur la problématique de l'accueil des réfugiés et des migrants et des réfugiés à l'heure actuelle, ici localement sur Évreux et le département de l'Eure, qui regroupe les associations comme le réseau REESF, Réseau Éducation Sans Frontières, le collectif étranger français pour l'égalité des droits, le CEFED, la Ligue des droits de l'homme, l'association vernonnaise ADEM Accueil des réfugiés, également la pastorale des migrants et la CIMA de Vernon. Et on a été rejoint aussi par les Restaurants du Cœur, le comité d'Évreux des Restaurants du Cœur, et Amnesty Évreux qui en fait partie, bien sûr. Et parmi nos différentes actions, donc il y a des associations comme RESF et le CEFED qui font beaucoup de suivi de dossiers et de démarches auprès de la préfecture pour les gens qui arrivent, qui s'occupent d'hébergement, qui s'occupent d'alphabétisation, etc. Nous, on essaye de faire, effectivement, à travers nos émissions de radio et l'appui au niveau des médias, de contrer justement ces discours nauséabonds dont on vient de vous parler et de faire la promotion de ces actions. Et dans le cadre de la défense qu'on fait des réfugiés et des migrants, on a depuis un an fait des entrevues avec le préfet. Et ça va faire la troisième. La dernière était hier soir. Donc on a vu entre le collectif et l'administration de la préfecture, sous la présidence de M. le préfet, et on lui a fait part de nos différents griefs et de la situation telle qu'elle se passait. Alors moi, j'ai rappelé au nom d'Amnesty un des grandes lignes hein, qu'on lui a déjà rappelé, mais bon, il faut toujours enfoncer le clou. Comme par exemple, l'accueil des réfugiés et des migrants était incombé en grande partie à la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit assurer, par exemple, l'hébergement des gens qui arrivent et qui font une demande d'asile. On sait très bien que les places, aussi bien en centre d'accueil qu'à travers le 115, sont largement insuffisantes et que donc ces personnes-là se retrouvent en partie à la rue. Que c'est également l'évolution de l'État de donner suite dans des conditions satisfaisantes au dossier. Et on sait très bien qu'il y a des pays qui sont rejetés d'office, même si on ne nous dit pas, des dossiers qui sont examinés par l'OFPRA ou la CNDA de façon extrêmement expéditive. Là aussi, l'État ne respecte pas ses engagements. Et que dans l'état actuel des choses, beaucoup de responsabilités et d'actions reposent sur les associations, mais qui n'ont ni les moyens, ni en moyens financiers, ni en termes de moyens militants, ni en temps, dont disposent ces gens-là, pour remplacer l'État. Évidemment, entre guillemets, on ne joue pas dans la même cour. Donc tous les gens s'épuisent, hein, sur tous les plans, hein, financièrement, économiquement, et puis en énergie, pour essayer de défendre ces gens-là, mais qu'on continue à le faire, puisque, comme disait Cécile dans son éditorial, nous sommes frères en humanité, donc on ne lâchera pas. Et que donc, on rappelle les obligations à l'État, et qui est aussi une des remarques que j'ai faites, c'est que l'État nous renvoie, et l'administration de la préfecture nous renvoie à des points de droit qui sont généralement un petit peu compliqués à suivre et qui leur permettent effectivement de donner des obligations de quitter le territoire. Au bout d'un certain temps, on leur a également rappelé que même si on s'intéressait au droit à travers ce qu'on fait, on n'avait pas du tout les mêmes moyens en termes d'appui juridique, même si on en a, d'avocats qui travaillent pour nous, même si on en a, et que ce n'était pas comparable au niveau de ce que l'État et la préfecture disposaient, et que donc là aussi, on était en position d'infériorité. Donc voilà, et j'ai terminé mon intervention en rappelant quand même à la préfecture que cette absence d'anticipation de l'État par rapport pour ce qu'on appelle en termes légal gérer les flux migratoires, on n'aime pas trop cette appellation-là, mais enfin, l'État doit effectivement anticiper ce qui va se passer. On a rappelé à la préfecture que tant que l'État en général ne ferait pas ce travail d'anticipation, eh bien la situation va continuer à se détériorer et que, par exemple, au niveau de l'accueil des flux de migrants à cause des phénomènes climatiques, on a commencé à vous en parler, mais ce phénomène-là ne va pas s'arranger, ne va pas diminuer. Donc on va se retrouver dans une situation qui va empirer et qui risque d'aboutir à des situations de conflit plus ou moins ouverts, y compris dans des pays européens, enfin, etc. Donc si on veut éviter ça, ben, il faut que l'État, effectivement, respecte ses engagements, respecte les textes qu'il a signés. La France les a à peu près tous signés sur l'accueil des réfugiés, mais fait tout son possible pour ne pas les respecter, et que tant qu'il y aura effectivement cette situation absurde, les choses ne pourront aller qu'en s'aggravant, et que donc il n'y avait aucune solution dans la politique actuelle. Voilà en gros ce que j'ai défendu. Alors bon, après, les associations vis-à-vis du préfet sont intervenues sur des dossiers épineux à l'heure actuelle, et les aberrations de certaines situations. Je vous en citer juste une de mémoire, parce que c'est Claire Lys qui s'en occupe, hein. Claire Lys, vous la connaissez, elle participe aussi à Amnesty et à nos émissions très souvent. Qui défend une jeune femme qui est actuellement en situation de demande de réfugié ici à Évreux depuis presque 2 ans maintenant, et dont on refuse le dossier. C'est une jeune femme d'origine congolaise qui a épousé un Syrien, qui a vécu quelques années au début de la guerre civile en Syrie, qui a dû fuir la Syrie à cause de la guerre, et qui a son deuxième enfant est né en Syrie. Et elle a dû fuir avant même qu'elle ait eu la possibilité de faire une déclaration de naissance auprès de cet enfant. Donc elle est arrivée en France, elle a fait une demande de réfugié, et le dossier est refusé depuis 2 ans par l'administration française, parce qu'elle n'a pas d'extrait de naissance de son deuxième enfant, qui doit avoir quelque chose comme 2 ans et demi à l'heure actuelle, et que dans l'état actuel des choses, elle ne peut pas avoir cet extrait de naissance, puisque de toute façon, c'est impossible de demander un état civil à l'heure actuelle en Syrie. Donc l'administration française se dit, votre dossier est irrecevable, il manque un papier. Voilà.
Alors, comment bloquer une situation volontairement ?
C'est ça. Donc là, c'était un bon... Il y en a plein des exemples comme ça. Alors bon, la réponse de monsieur le préfet...
C'est indigne.
C'est toujours de dire, mais on fait ce qu'on peut, on applique les directives de l'État, on essaie de trouver des solutions. Bon, il a promis à nouveau à Claire Lys hier de réouvrir le dossier et de voir s'il n'y avait pas une solution pour arriver effectivement à faire avancer ce dossier et que cette personne puisse présenter son dossier à l'OFPRA, parce que pour l'instant, il est bloqué. Mais bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors bon, ce qu'il faut quand même conclure de ces entrevues avec le préfet, c'est qu'on se rend compte quand même comment on fait front, entre guillemets, au niveau de ce regroupement d'associations. Et on est nombreux à chaque fois, on est beaucoup plus nombreux, nous, que ce que le personnel de la préfecture met comme représentant lors de ces rencontres. Mais ça nous permet effectivement de se rendre compte que monsieur le préfet n'a pas entièrement les mains libres. Il sent bien qu'il y a des associations qui, entre guillemets, agissent et surveillent un peu les aléas de la préfecture, donc il se sent quand même un petit peu responsable de ce qui va et de ce qui ne va pas. C'est souvent ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on a obtenu, par exemple, pas suffisamment, mais on a obtenu des suppressions d'obligations de quitter le territoire français, dites OQTF. Certaines ont été supprimées. C'est vrai que la préfecture fait davantage d'efforts à l'heure actuelle pour essayer de régulariser des gens qui sont en situation de trouver un emploi ici en France, qui est une clause de régularisation. C'est vrai qu'il y a des efforts de fait à ce niveau-là, qui sont bien sûr pas suffisants, mais on se rend compte quand même qu'entre une situation qui pourrait être que dramatique par rapport à l'accueil des réfugiés au niveau de l'État français et des petites avancées, eh ben nous, on préfère effectivement les petites avancées sur le plan local et que ces réunions-là ne sont malgré tout jamais inutiles, même si monsieur le préfet nous fait des grands sourires et qu'on sait très bien qu'après, il n'appliquera pas forcément tout ce qu'il nous a promis. Voilà. Mais bon, donc c'était hier soir, donc à l'actualité locale, je voulais vous en dire quelques mots, mais bon, c'est important. Et si vous voulez encore une fois rejoindre, et je vais m'arrêter là pour ce sujet-là tout de suite, mais si vous voulez rejoindre les associations qui composent ce collectif, hein, que ce soit Amnesty Évreux ou les autres, hein, il n'y a aucune exclusivité, n'hésitez pas, surtout les gens qui font des suivis de dossiers, les principaux ici, c'est EuroSF et le CFED, et qui sont submergés de travail, n'hésitez pas à apporter votre concours si vous avez de l'envie ou des compétences, ou simplement l'envie pour participer à ces campagnes-là. Encore une fois, ce sont des gens qui sont dans des situations dramatiques, qui arrivent en France et en Europe, qui sont dans des situations dramatiques et qui ont besoin, effectivement, qu'on les aide. Voilà. Je crois que Françoise voulait vous parler,
oui,
vous le dira elle-même.
Je vais vous donner des bonnes nouvelles, parce que ça fait du bien à entendre quand même. Donc, on vient de recevoir la dépêche des actions urgentes. Et cette dépêche nous indique les aspects positifs que nous avons obtenus. Par exemple, en Algérie. Le 7 mars 2019, le blogueur et prisonnier d'opinion algérien Merzouk Touati a été libéré. Le 4 mars, un tribunal algérien avait réduit sa condamnation de 7 ans à 2 ans de prison, plus 3 avec sursis. Il avait déjà purgé 2 années d'emprisonnement et a ainsi été libéré. Amnesty le considérait comme un prisonnier d'opinion détenu uniquement pour des postes pacifiques publiés en ligne et demandait sa libération immédiate sans condition. La pression nationale et internationale exercée sur les autorités algériennes a été cruciale pour obtenir sa libération. Amnesty, associé à un comité d'organisations algériennes, organisait des manifestations et des sittings devant les tribunaux en solidarité avec cet homme. En février 2019, Amnesty International Algérie avait remis une pétition ayant recueilli plus de 6500 signatures au ministère de la Justice et au Premier ministre pour réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle. Voilà le cas de l'Algérie. En Azerbaïdjan, Bayram Mamadov, un militant azerbaïdjanais, a été libéré le 29 avril après avoir passé 30 jours en détention administrative pour des accusations forgées de toutes pièces. Il ne s'était plus plaint de mauvais traitements durant sa détention depuis qu'Amnesty International avait publié une action urgente. Il est possible que le tollé international qui a suivi l'arrestation de cet homme, et notamment cette action urgente, ait empêché qu'il soit victime d'autres mauvais traitements et que sa détention soit prolongée, comme quoi les actions urgentes, c'est utile. Au Kazakhstan, au bout de 5 mois de détention, l'assignation à domicile du prisonnier d'opinion M. Bilash a été levé le 17 août après qu'il a plaidé coupable et accepté de cesser de faire campagne sur les violations des droits humains en Chine. Il devra verser une amende de $300 américains et restera soumis à des restrictions sur ses déplacements pendant 3 mois. À la suite de sa libération, il a déclaré qu'il avait accepté les conditions car les autorités l'avaient informé qu'il encourait sinon 7 ans de prison dans le cas contraire. Il a indiqué que son organisation poursuivait son travail après son retrait. Amnesty continuera de suivre cette affaire et réagira évidemment comme il convient. Il y a aussi un cas au Maroc. Le 5 avril 2019, le défenseur des droits humains, M. Zine El Abidine Eradi, a été libéré après avoir purgé une peine d'1 an à la prison locale d'Agadir à l'issue d'un procès unique. Il détient le statut de réfugié en France et avait été arrêté à son arrivée au Maroc alors qu'il se rendait pour voir son père. Le 15 mai, il a enfin pu rentrer en sécurité en France après avoir reçu ses documents de voyage. Amnesty a fait campagne en faveur de sa libération immédiate et sans condition, car il était détenu uniquement en raison de son travail pacifique de défense des droits humains et demandait son retour en toute sécurité en France. La mobilisation accentuée au Maroc et en France a permis d'accroître la visibilité de cette affaire et de faire pression sur les autorités afin qu'elles autorisent son retour. Oui, il y a aussi le cas de deux personnes au Myanmar. Myanmar, ce beau pays que j'ai visité, mais oui, il s'est passé pas mal de choses.
C'est la Birmanie, pour ceux qui connaissent
la Birmanie. Deux journalistes de Reuters, Wallon et Kiav Skoukoum, ont bénéficié d'une grâce présidentielle et ont été libérés de prison après avoir purgé plus de 500 jours sur leur peine de 7 ans d'emprisonnement au Myanmar. Il s'agit d'une victoire considérable pour la liberté de la presse au Myanmar et ailleurs, et Amnesty International est fier d'y avoir contribué. Après sa libération, Un de ces deux journalistes, a dit à des journalistes à l'extérieur de la prison d'Insein, « Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés en prison et toutes les personnes du monde entier qui ont demandé notre libération. J'ai hâte de retourner dans la salle de rédaction. » Et on les voit là sur une photo en faisant un signe de victoire. Bon, il y en aurait bien d'autres, mais le temps passe.
Oui, juste avant notre première pause musicale, François, si tu peux rappeler en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas bien Amnesty, ce que c'est qu'une action urgente.
Parce que oui.
Tu parlais d'action urgente, mais voilà. Les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire.
Alors, Amnesty, donc, a des chercheurs qui travaillent dans le monde entier. Et quand des cas sont signalés, pour certaines fois, des actions urgentes sont enclenchées. C'est-à-dire qu'il y a tout un réseau, en France par exemple, et puis dans d'autres pays, de volontaires qui écrivent pour demander la libération de ces personnes et toujours aux autorités. Les chercheurs qui se rendent dans les pays sont connus du gouvernement du pays aussi. Hein. Et donc, on nous demande d'écrire dans un délai assez court, hein, de 3 semaines, et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des actions urgentes. Je suis responsable du réseau à Évreux et vous écrivez à amnesty.evreux@gmail.com.
C'est ça.
Voilà.
Et on vous tiendra au courant.
Bien sûr.
Ok. Bon, on va écouter notre première pause musicale. Alors, bon, comme je fais la technique, encore une fois, mais que je ne suis toujours pas expert, j'espère ne pas me tromper.
Thank you.
antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour la suite de notre émission d'information et de mobilisation pour les droits humains. Et on vient d'entendre R.E.M. pour parler anglais, avec un vieux titre qui s'appelait Shining Happy People, mais qui s'appelle... Qui était un, oui, REM, c'est ça, comme disent beaucoup de Français. Qui est un vieux titre, mais c'est un groupe, je voulais présenter ce soir, parce que c'est un morceau sympa, en plus assez joyeux, voilà. Et c'est un groupe qui a participé déjà à des actions aux États-Unis en soutien à Amnesty. Voilà. Donc il y a Sabine, je crois, qui avait des choses à vous dire.
Oui, pas terrible d'ailleurs. On part en Argentine, où il y a un recul sur le droit à l'avortement très, très, assez scandaleux encore. En mois d'août, le Sénat a voté contre la légalisation de l'avortement pendant les 14 premières semaines de grossesse. Après 16 heures de débat, les sénateurs ont rejeté la loi qui aurait permis de sauver de nombreuses vies. Les personnes ayant besoin de mettre un terme à une grossesse doivent toujours risquer la mort ou la prison. Et les autorités ont nié le droit d'une fillette de 11 ans à mettre fin à une grossesse forcée. Elles doivent être tenues pour responsables d'avoir incité une survivante de viol âgée de 11 ans, une enfant, à mener sa grossesse forcée contre elle et à divulguer des informations médicales confidentielles, a déclaré Amnesty International lorsque la victime de viol âgée de 11 ans est entrée à l'hôpital pour demander un avortement légal. Le premier devoir des autorités aurait dû être de protéger sa vie et sa santé. Au lieu de ça, ils ont dressé obstacle sur obstacle dans le seul but de priver la jeune fille de tous ses droits, a déclaré Erika Guevara Rosas, directrice du programme Amérique chez Amnesty International. Le fait de contraindre la jeune fille à mener à terme sa grossesse forcée, même si cela met sa vie en danger, est une injustice cruelle. Un tel préjudice psychologique et physique infligé à un enfant pourrait constituer un acte de torture en vertu du droit international. La fillette de 11 ans, originaire de la province de Tucumán, dans le nord-ouest de l'Argentine, a été admise à l'hôpital en janvier après la découverte qu'elle était enceinte de 19 semaines. Elle porte l'enfant du partenaire de sa grand-mère qui l'a agressé sexuellement. La jeune fille et sa mère ont rapidement demandé un avortement, ce qui est légal en Argentine en cas de viol ou lorsque la vie de la femme ou de la fille est en danger. Cette affaire épouvantable est symptomatique de la violation systématique par les autorités argentines des droits sexuels et reproductifs des filles qui ont fait taire leur voix et nier leur autonomie. Nous constatons à maintes reprises que ces droits fondamentaux sont bafoués en Argentine, même lorsqu'ils sont explicitement protégés par la législation nationale, a déclaré Mariela Belsky, directrice exécutive d'Amnesty International Argentine. Voilà, petite puce de 11 ans, violée, et qui est obligé de mener à terme sa grossesse.
Ah. Et je crois que maintenant c'était Françoise qui voulait...
Oui, maintenant je vais vous parler de l'Iran. Il y a une action qui est menée par rapport à une personne là qui demande des informations concernant la disparition de sa sœur et de son frère, disparitions qui ont eu lieu entre juillet et septembre 88. À ce moment-là, les autorités iraniennes ont soumis des milliers de dissidents politiques emprisonnés à des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires menées en secret et se sont débarrassés de leurs corps, principalement dans des fosses communes anonymes. Depuis lors, les autorités traitent ces homicides comme des secrets d'État et font vivre un calvaire aux familles en refusant de leur révéler quand, comment et pourquoi leurs proches ont été tués et où se trouvent leurs corps. Étant donné leur caractère systématique et généralisé, Amnesty International considère que les disparitions forcées résultant des exécutions extrajudiciaires constituent un crime contre l'humanité qui perdure et demande aux Nations Unies d'ouvrir une enquête indépendante visant à amener les responsables de ces crimes odieux à rendre des comptes à la justice. Compte tenu de leur nature systématique et généralisée, les disparitions forcées qui perdurent et les mauvais traitements infligés aux familles des victimes constituent donc des crimes contre l'humanité. À l'heure actuelle, aucun responsable n'a été traduit en justice. En effet, la plupart des fonctionnaires impliqués continuent d'occuper des postes haut placés, y compris, paradoxalement, au sein des principaux organes judiciaires et gouvernementaux chargés de faire en sorte que les victimes obtiennent justice. Donc, il y a une action menée pour une personne qui s'appelle Myriam Abkari Monfared. Elle est détenue depuis décembre 2009. Elle purge une peine de 15 ans d'emprisonnement pour inimitié à l'égard de Dieu. Sa condamnation repose uniquement sur des appels téléphoniques qu'elle a passés à des membres de sa famille appartenant à l'OMPI et sur une visite qu'elle leur a rendue en Irak. Le 14 octobre 2016, Myriam Abkari Monfared, prisonnière d'opinion, a déposé une plainte auprès du parquet de Téhéran à partir de la prison. Cette plainte concerne l'exécution extrajudiciaire et la disparition forcée en 1988 de sa sœur et de son frère, âgé de 17 ans au moment de son arrestation. Dans sa plainte, cette dame demande une enquête officielle sur l'exécution extrajudiciaire de son frère et de sa sœur et sollicite des informations détaillées sur les exécutions, l'emplacement des fosses communes et l'identité des auteurs. À ce jour, les autorités n'ont pas donné suite à sa plainte, mais elles l'ont soumise à des représailles. Elles ont refusé de l'amener à ses rendez-vous médicaux à l'extérieur de la prison, l'empêchant de recevoir un traitement adéquat pour son arthrite rhumatoïde et ses problèmes de thyroïde. Elles ont également menacé à plusieurs reprises de mettre un terme aux visites de sa famille. Le 13 mai 2017, son mari, Hassan Jafari Attam, a été convoqué au ministère du Renseignement à Téhéran. On lui a expliqué que son épouse risquait une peine d'emprisonnement supplémentaire de 3 ans et qu'elle serait exilée dans une prison éloignée dans la province de Sistan-Balouchistan, dans le sud-est de l'Iran, si elle ne cessait d'écrire des lettres ouvertes au sujet de sa plainte et de chercher à connaître toujours le sort de son frère et de sa sœur. Donc, nous adressons une lettre à son Excellence le Guide suprême, au président de la République islamique d'Iran, pour demander que cette personne soit libérée de sa peine de prison et soit soignée. Voilà, alors si ce sujet vous intéresse, et vraiment il est digne d'intérêt, vous pouvez écrire à Amnesty, amnesty.evreux@gmail.fr. gmail.com.
Moi, c'est pas grave.
Et nous vous enverrons la lettre envoyée en ce moment à partir du 21 octobre, car l'Iran doit être examiné par les Nations Unies à cette époque-là. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre intention d'écrire.
À nous contacter. Et encore une fois, c'est le nombre de protestations et d'appels et de courriers qui fait la différence auprès des autorités. Je vais intervenir pour vous parler de l'actualité que vous avez forcément vue à la radio, entendue à la radio ou vue à la télévision, l'intervention de l'armée turque à l'heure actuelle en Syrie. Et je vais vous lire un communiqué qui a été fait par Amnesty. Et je vais vous expliquer après, on va vous passer un petit enregistrement qui a été fait par Amnesty International France, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous lis d'abord le communiqué. À l'heure où l'armée turque attaque les forces kurdes en Syrie, les civils sont gravement en danger. Les forces turques viennent de pénétrer dans le nord-est de la Syrie dans le cadre d'une offensive visant à chasser de la frontière les forces kurdes jusque-là soutenues par les États-Unis. Il est impératif que toutes les parties au conflit respectent le droit international humanitaire qui interdit toute attaque contre les civils et les biens à caractère civil, ainsi que les attaques aveugles et disproportionnées. Cette situation est d'autant plus inquiétante que nous vous avons déjà fait état d'attaques menées sans discrimination par l'armée turque en 2018. Comme dans d'autres parties de la Syrie, de très nombreux civils du nord-est du pays ont déjà eu à subir les conséquences des offensives militaires successives, de multiples déplacements et des conditions de vie extrêmement difficiles. La Turquie a l'obligation, au terme du droit international humanitaire, de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour protéger les civils et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier d'une aide humanitaire. Les civils qui souhaitent fuir les combats doivent se voir offrir la possibilité de passer en toute sécurité. Les forces turques comme les forces kurdes ont déjà mené à plusieurs reprises des attaques indiscriminées en Syrie, au cours desquelles de nombreux civils ont trouvé la mort. Cela ne doit pas se reproduire. Afin d'éviter une nouvelle catastrophe humanitaire dans le nord de la Syrie, la communauté internationale doit prendre des mesures pour veiller au respect du droit international humanitaire par les autorités turques et les groupes armés pro-turcs, ainsi que par les forces kurdes. L'Organisation des Nations Unies indique fournir actuellement une aide humanitaire à 700 000 personnes dans le nord-est de la Syrie, qui compte 1,7 million d'habitants. Donc voilà, si je vous ai parlé de ça aussi, c'est parce que, bon, bien sûr, la situation actuelle en Syrie est dramatique, va amener forcément des gens à chercher refuge ailleurs. Peut-être qu'on verra des gens arriver à Évreux qui viennent de cette région-là, dans les mois qui viennent. Et donc, Amnesty fait référence dans ce communiqué au droit humanitaire pendant les conflits armés. Alors, ce qu'il faut savoir, et vous allez avoir l'explication donnée par Amnesty juste après, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, effectivement, même pendant les conflits armés, les pays qui interviennent et les armées qui interviennent n'ont pas le droit officiellement de faire n'importe quoi, et entre autres d'attaquer délibérément et de façon indistincte les civils ou les biens civils qui normalement doivent être effectivement mis à l'écart des combats. Bon, on sait très bien que dans la plupart des cas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais encore une fois, Amnesty appelle au respect des règles internationales. Et petite précision, tous les pays au monde, tous sans exception, ont signé ce droit humanitaire de la guerre et ne le respectent jamais lorsqu'ils font la guerre. Donc on vous passe l'enregistrement.
Voir pour comprendre. Les civils dans les conflits. En juillet 2017, les forces de la coalition internationale contre l'État islamique célébraient la chute de Mossoul. Une victoire militaire payée au prix fort par la population civile. Plusieurs milliers de morts, 15 000 blessés, plus d'un million de personnes déplacées, les habitants de Mossoul, après avoir vécu l'enfer de l'occupation djihadiste, ont aussi subi pendant 9 mois celui de la libération. Les civils sont régulièrement en première ligne dans les conflits armés. Même si la guerre ne doit pas être une zone de non-droit et que certaines des lois qui la régissent veillent à épargner les civils, la réalité est tout autre. Ils sont de plus en plus menacés. La multiplication des conflits internes et des combats en zone urbaine contribue à l'aggravation de leur situation. Les chiffres sont sans appel. Selon l'ONU, les victimes civiles en temps de guerre sont passées de 5% des pertes au début du XXe siècle à 15% pendant la Première Guerre mondiale, puis à 65% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour culminer à 90% lors des conflits armés des années 90. Il faut bien comprendre ce que l'on entend par civil. C'est tout simplement une personne qui ne participe pas aux hostilités. Les religieux, les médecins, les journalistes qui interviennent sur les zones de conflit sont aussi des civils. Ainsi, même un membre des forces armées, s'il ne prend plus part au combat, parce qu'il est blessé ou parce qu'il capitule, est un civil. Les maisons, les immeubles, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, bref, tout ce qui fait le quotidien des civils et qui n'a pas de rôle militaire doit aussi être épargné. On les appelle les biens de caractère civil. Revenons à Mossoul. Les civils ont été littéralement pris au piège par les différentes parties du conflit. L'État islamique les a systématiquement utilisés comme boucliers humains et les a empêchés de fuir. Les forces irakiennes, en installant ponctuellement leurs snipers sur les toits des habitations libérées, sans évacuer les civils, les ont transformés en cibles. Des civils ont été tués ou blessés par des tirs de mortier effectués sans discrimination dans des zones fortement peuplées. À cela s'ajoutaient les bombardements incessants de la coalition dirigée par les États-Unis. Par exemple, le 17 mars 2017, plus de 100 personnes ont été tuées par une frappe aérienne à l'ouest de Mossoul. L'enfer de la guerre pour les civils, ce n'est pas seulement la mort lors des combats. C'est aussi l'horreur des disparitions forcées, de la détention arbitraire, de la torture. Ces méthodes utilisées dans les pires régimes répressifs se généralisent dans de nombreux conflits, en particulier pour opprimer les opposants politiques et terroriser la population. Du jour au lendemain, l'un des vôtres disparaît, vous êtes sans nouvelles de lui des mois durant, les autorités nient être au courant de la situation, et au final, vous ne le reverrez jamais, ou si par miracle il réapparaît, vous découvrirez le récit de ses tortures. Voilà, c'est ça les disparitions forcées. Par exemple, en Syrie, depuis le début du conflit en 2011, des dizaines de milliers de civils, présumés opposants au gouvernement, ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et ont été systématiquement torturés dans des centres de détention. Les civils subissent également des violences sexuelles, des pratiques barbares utilisées en représailles pour torturer et susciter la peur. C'est comme ça qu'au Soudan du Sud, des milliers de femmes, des filles et des hommes ont été violés et agressés sexuellement à cause de leur appartenance ethnique. Les conflits entraînent aussi des déplacements massifs de population. Contraints de fuir les combats, les civils sont jetés sur les routes, sans protection, sans perspective d'avenir. À ce jour dans le monde, plus de 50 millions de personnes ont été déplacées de force, la plupart à cause d'un conflit armé. Il faut savoir que 80% de ces déplacés sont des femmes et des enfants. Toutes ces populations civiles menacées, jetées hors de chez elles ou piégées en zone de combat, dépendent souvent de l'aide humanitaire pour survivre. En Syrie, les sièges de longue durée privent la population de nourriture et de médicaments. Des Syriens souffrent et meurent parce que la famine est utilisée comme une arme de guerre, tant par le gouvernement que par les groupes armés impliqués dans le conflit. Et pourtant, tout est prévu pour protéger les civils dans les conventions de Genève, les traités internationaux fondamentaux du droit international humanitaire. Ces conventions fixent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres d'organisations humanitaires, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. Ces textes sont catégoriques. Toute attaque délibérée contre des civils ou des biens de caractère civil est un crime de guerre. Si cette attaque se fait à grande échelle pendant de longues périodes et si elle est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Tous les États ont signé ces conventions et elles sont donc universellement applicables. En résumé, c'est indiscutable. Tout le monde est d'accord et tout le monde doit les respecter. Comment cela devrait-il fonctionner ? La protection des civils et des biens à caractère civil repose sur trois grands principes. La distinction, la précaution et la proportionnalité. La distinction, cela signifie que toutes les parties du conflit doivent faire la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil. Les armes qui ne peuvent pas faire cette distinction au moment de leur utilisation sont interdites. Ce principe prohibe par exemple les bombardements aériens indiscriminés. La précaution s'applique lorsqu'une opération militaire fait peser des risques sur les civils. Elle doit être alors conduite selon des dispositions particulières. Comme par exemple, choisir le moment de l'attaque pour minimiser les pertes. Avertir à l'avance les civils, si c'est possible. Arrêter les opérations si leur impact sur la population est disproportionné. Enfin, la proportionnalité autorise l'usage de la force militaire à condition que l'impact sur les civils ne soit pas disproportionné par rapport à l'avantage militaire attendu. Pourtant, la réalité est tout autre.
Il était 7h30. Nous prenions tous notre petit déjeuner lorsque j'ai entendu un sifflement et une roquette est tombée au beau milieu de la pièce sur ma tante. Elle a été tuée sur le coup. Le feu a commencé à s'étendre et j'ai vu sa main voler. La maîtresse de maison a également été tuée sur le coup. Mes deux enfants ont été blessés et un bébé assis sur les genoux de sa grand-mère a eu le bras arraché. Les combattants de l'État islamique, postés juste derrière la porte, ne nous ont pas laissés sortir pour nous occuper des blessés ou enlever les corps. Nous les avons emmenés à la porte de derrière. Nous avons dû attendre 2 jours pour pouvoir transporter nos blessés à l'hôpital. Mes enfants et mon époux sont là-bas et je suis coincée dans le camp, sans autorisation d'en sortir. Je suis tellement inquiète pour eux.
C'est clair, toutes les lois sont là pour protéger les civils et pourtant leur situation est catastrophique. Il est inadmissible que leur souffrance ne soit pas traitée avec sérieux et détermination. La communauté internationale se montre scandaleusement absente. Les gouvernements doivent cesser d'affirmer que la protection des civils n'est pas de leur ressort. Pour leur venir en aide et pour les protéger, il faut agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le terrain, pour les prendre en charge en temps réel, comme le font de nombreuses organisations. Et puis, il faut aussi intervenir auprès de nos gouvernements et des instances internationales pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit. Et pour cela, le droit international humanitaire devrait être une frontière absolument infranchissable pour ne pas sombrer dans la barbarie. Pour défendre des intérêts particuliers ou par pur opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré jusqu'à présent incapable de résoudre les conflits qui ont déchiré la Bosnie-Herzégovine, le Myanmar, Israël et la Palestine, la Syrie et l'Ukraine. Alors que des États ou des groupes armés se sont rendus coupables de crimes atroces sur des civils. L'usage systématique du droit de veto ne permet pas à la communauté internationale de disposer pleinement des instruments nécessaires pour protéger les civils. Un pas décisif serait fait avec l'encadrement de ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Ainsi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité feraient clairement comprendre aux responsables que le monde ne restera pas les bras croisés. Pour construire un avenir où les civils seront enfin réellement protégés, il est également crucial que les auteurs des infractions commises contre les civils soient jugés. Sans quoi les criminels continueront à commettre leurs exactions en toute impunité. Ce sont les instances de justice internationales et nationales qui doivent y veiller. Ceux qui ont ordonné ou commis des crimes en temps de guerre, comme par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone, ont été traduits en justice. En plus d'œuvrer activement pour que les responsables des crimes de guerre rendent des comptes, il faut rappeler en permanence le droit aux décideurs. Inciter avec détermination nos gouvernements à agir face aux souffrances des civils. Rappeler avec fermeté qu'il ne faut ni vendre ni transférer d'armes à des auteurs de crimes de guerre. Accueillir sans discrimination des réfugiés qui fuient les pays en guerre. En résumé, pour protéger efficacement les civils, il est indispensable de prévenir et agir contre les atteintes au droit international humanitaire, de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, d'assurer une meilleure protection des personnes qui fuient les conflits, de mettre en œuvre le traité international sur le commerce des armes. Protéger les civils est une priorité absolue et il y a urgence car leur situation empire. Cela permet non seulement de réduire les pertes humaines, mais aussi de renforcer la capacité des pays en guerre à reprendre une vie normale et pacifiée une fois la dernière balle tirée. Nous devons rester collectivement mobilisés et individuellement indignés par cette situation insupportable, car n'oublions jamais que nous sommes tous des civils. Comme le disait René Cassin, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés, en quelque partie du monde que ce soit.
Voilà, c'était donc un petit résumé très bien fait, j'ai trouvé, de ce que signifie la protection des civils et qui fait bien comprendre toute la différence qu'il y a entre des textes qui sont signés par les États et la réalité des choses. Oui, Sabine qui me fait signe, pause musicale. On va poser un petit peu de musique avant la dernière partie de notre émission.
Se dit Yana très souvent, ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe pente de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays, si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, c'était Grand Corps Malade, donc vous l'a déjà passé, mais vu l'actualité et vu ce qui se passe en Syrie, c'était indispensable de vous le repasser. Et le titre, c'est Au Feu Rouge. Voilà, je crois qu'il y avait Françoise qui voulait vous entretenir d'autre chose.
Oui, je voulais vous parler rapidement, parce que l'heure tourne, de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Vous savez peut-être qu'un nouveau président a été élu, Félix Tshisekedi, qui a pris ses fonctions le 24 janvier 2019. Bon, alors, vous savez qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème concernant le recrutement d'enfants soldats dans la région du Kasaï. Donc, c'est une lettre que l'on vous propose pour écrire au président donc, du Congo, maintenant, à ce nouveau président, et pour lui demander de faire en sorte qu'il n'y ait plus de recrutement d'enfants soldats dans cette région, dans la région du Kasaï. Voilà. Donc, si vous souhaitez faire cette lettre, nous vous enverrons le modèle de lettre. Vous écrivez à Amnesty, vous envoyez un mail, quoi, amnesty.evreux@gmail.com. Voilà. Merci d'avance.
Et Sabine, tu voulais encore nous dire aussi deux, trois petits mots avant la fin ?
On peut peut-être parler de Hadjar Raissouni.
Hein,
qui est au Maroc et où la loi viole le droit des femmes également. Elle a été arrêtée. Le Maroc vient de faire un pas en arrière en ce qui concerne à la fois les droits des femmes et la liberté d'expression. C'est une journaliste qui est connue pour ses textes critiques envers les autorités et elle a été condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Son fiancé ainsi que trois professionnels de la santé impliqués dans cette affaire ont également été condamnés et elle est actuellement incarcérée. Alors que bon, ce qu'on lui reproche, c'est sa position, ses décisions c'est plus une femme politique et ils veulent la punir par rapport à ses activités en tant que journaliste. Donc, allez signer la pétition, allez sur le site d'Amnesty hein, pour demander la libération d'Hadjar. Et puis là, d'annuler les peines et de la libérer immédiatement, ainsi que son fiancé, les médecins et les deux autres membres du personnel médical concerné.
Donc si je comprends bien, on peut être condamné au Maroc parce qu'on a des relations sexuelles hors mariage, c'est ça ?
Et puis si tu veux avorter, c'est avec l'accord, soit dans le cas où la santé de la mère est en danger, c'est accepté dans ce cas-là, mais à la condition que tu aies l'accord de ton mari.
Oui.
Sinon, tu n'as pas le droit.
Et pourtant, au niveau du droit, si on prend l'exemple des relations sexuelles, comme dit le droit, à partir du moment où c'est entre adultes consentants, ça ne regarde les intéressés et pas les États.
Et là, le fiancé est condamné aussi, et puisqu'ils n'étaient pas mariés, évidemment, et le personnel médical. Donc, bonjour la pression. Alors, allez signer, parce que c'est important, là, quand le droit des femmes recule comme ça dans un pays qui a quand même connu des moments autre.
Oui, oui, oui. Parfois, il n'y a pas que...
La Tunisie, enfin, il y a
malheureusement pas qu'au Maroc où les droits humains régressent. Je veux dire que c'est un phénomène, on en a déjà parlé, mais on y reviendra. Mais c'est un phénomène, parce que là, on en arrive au terme de l'émission, mais ça me fait penser une petite aparté. C'est un phénomène qui se généralise partout, hein, c'est vrai. Et donc, encore une fois, par rapport à vous qui nous écoutez, qui nous entendez, faut pas rester les bras croisés, quoi. C'est toujours ce qu'on dit. C'est la raison d'être même d'un mouvement comme Amnesty, ne pas rester les bras croisés parce que le recul des droits effectivement se généralise, même chez nous, hein, je veux dire, même si ça prend pas les mêmes proportions ou les mêmes côtés, je dirais, caricaturaux que ce que vient de vous parler Sabine ou Françoise dans d'autres pays. Mais les droits humains ont tendance effectivement à être sur la pente descendante. Donc on le voit bien ici, nous, je vous ai parlé au début de l'émission des atteintes aux droits des réfugiés et des migrants, ici en France et à Évreux. Donc c'est tout à fait caractéristique et il n'y a pas que ça. On vous a déjà aussi parlé des droits manifestés aussi en France qui sont remis en cause indirectement, pas de façon frontale, mais indirectement par rapport au maintien de l'ordre et à la sécurité, enfin, etc. Donc voilà. Ça me fait penser aussi une aparté, c'était pas du tout prévu dans le conducteur de l'émission, mais c'est pas grave. Une petite aparté, vous avez peut-être entendu parler, alors j'ai plus son nom en tête, mais d'une observatrice justement lors des manifestations au printemps dernier, qui travaillait pour la Ligue des droits de l'homme et qui observait, qui faisait des constats sur le comportement aussi bien des forces de sécurité que des manifestants, hein, pour faire un rapport, comme Amnesty fait des rapports aussi sur ce genre de sujet. Et elle a fait ça pendant plusieurs manifestations et elle est passée en jugement suite à une plainte de la police. Alors officiellement, elle a passé en jugement pour infraction au code de la route.
On ne peut plus observer la police pendant les manifestations.
Voilà. Alors que le droit français prévoit que si c'est tout à fait légal d'observer la police dans des manifestations publiques.
Oui, mais en tant que journaliste, tu ne fais plus que ton travail.
Donc elle était inquiétée en justice pour atteinte au code de la route. Et le jugement a été rendu là à la fin de l'été ou au mois de septembre, je ne sais plus. Mmh. Et le juge a prononcé un non-lieu en disant qu'elle n'aurait même pas dû être inquiétée. Donc, quand même une bonne nouvelle, effectivement. Il y a des instances juridiques et des juges qui ne marchent pas dans la combine du tout répressif.
Qui n'ont pas envie d'être instrumentalisés.
Voilà. Bien, on arrive au bout de l'émission, donc on va vous parler de nos actualités locales. Et surtout qu'il y a Banu du laboratoire qui est en train d'ouvrir la porte du studio. Voilà. Donc, pour prendre la suite de notre émission. Bienvenue à lui. Donc, notre actualité locale, on en a quelques-unes. On sera présent jeudi 17, jeudi après de cette semaine, jeudi 17, à 20h, au théâtre, pour un concert Anne Passeo, organisé par le Temps Grave. Et donc, nous, on sera présent. On va tenir un stand d'information. Vous pouvez nous y retrouver. Et on ne peut que vous encourager à venir assister à ce concert qui promet d'être particulièrement de qualité. Donc Anne Passeo au théâtre jeudi 17 en présence d'Amnesty International. On sera également présent les 14 et 15 novembre, c'est un peu plus loin mais on vous en parle dès maintenant, les 14 et 15 novembre prochains, toujours au théâtre, toujours avec le Tangram, mais là pour une pièce de théâtre qui s'appelle Galilée. Et qui parle entre autres des atteintes à la liberté d'expression. Donc la pièce Galilée, 14 et 15 novembre à 20h au théâtre, on y sera présent avec un stand les deux jours. Et puis aussi dans notre actualité, même si on n'a pas d'action précisément du groupe d'Amnesty, mais on vous rappelle que, à cette occasion-là, on vous rappelle que le 20 novembre prochain a lieu le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et qu'il va se passer des choses sur Évreux, je pense qu'on va y participer. Prochaine émission en direct sur l'antenne de Principe Actif, c'est le 29 octobre, et on vous souhaite une bonne fin de soirée.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.